prédicateur, pasteur Alain Ouvrard. Thème du message, il sera ton or, ton argent, ta richesse.
Un chant qui est tout à fait dans l'esprit de ce que nous allons partager ensemble ce soir. Si tu cherches la joie, la paix, le bonheur, viens au Seigneur Jésus. Alors, c'est vrai qu'on peut être sans cesse déçu en dehors de cette grâce merveilleuse que Dieu nous apporte. Et nous allons lire, nous allons faire deux lectures. Vous allez reconnaître les accents de ce chant à travers une première lecture, mais surtout la deuxième. Alors la première lecture, elle se trouve dans la lettre de Jacques. L'apôtre Jacques, au chapitre 4 et au verset 8, c'est très court, mais ça veut dire ce que ça veut dire. Alors, Jacques, à la fin de votre Bible, chapitre 4 et le verset 8, où il est dit ceci. « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. » Approchez-vous de Dieu. Avec cette certitude, parce que c'est une certitude, que si nous nous faisons la démarche, lui va s'approcher de nous. Vous savez, c'est toujours le premier pas qui compte, parce que Dieu attend que nous fassions le premier pas. Lui, il l'a fait déjà depuis bien longtemps, on n'en est pas conscient. Et il l'a fait avec une démonstration de sentiment, puisque dans une autre parole de la Bible, du Nouveau Testament, il nous est dit que Dieu nous a aimés le premier. Donc à la base de ce rapprochement, c'est que Dieu aime. Il aime sa créature. Et il nous dit tout à nouveau, puisque les choses sont prêtes, puisqu'il a donné la preuve de son amour, il nous dit, mais approchez-vous. Qui pourrait refuser l'amour ? Dans un monde qui est en quête finalement de choses vraies, de choses pures, de choses réelles, alors l'amour c'est ça. Et c'est pour cela que Jacques le dit bien. Vous prenez l'engagement, vous faites ce pas, alors vous savez que Dieu à ce moment-là, il va s'approcher de vous. Et vous allez le faire parce que vous croyez que Dieu existe. Vous allez vous approcher parce que on ne s'approche pas de quelqu'un qui n'existe pas. Et c'est peut-être justement la grande barrière à passer pour beaucoup d'hommes et de beaucoup de gens de notre temps et de tous les temps, c'est que finalement, ils ne sont pas sûrs que Dieu existe. Ça reste quelque chose de très vague. Mais à partir du moment où on sait qu'il existe et que notre démarche n'est pas une démarche qui s'inspire de la crainte mais de l'amour, alors qu'est-ce que nous pourrions craindre? Qu'est-ce que nous pourrions redouter? Approchez-vous de Dieu et il se rapprochera de vous. À ceci, nous allons ajouter un autre passage que vous connaissez certainement. Très intéressant parce que finalement, c'est ce que nous avons chanté il y a un instant. Dans le livre de Job, au chapitre 22, je vais lire ce texte. Et ce passage est intéressant à bien des égards parce que il nous montre la manière de nous approcher de Dieu. Il nous montre ce qu'il faut faire pour rentrer en communion avec Dieu. Il nous montre la bénédiction que Dieu est prêt à nous donner. Il nous montre les conditions dans lesquelles il va nous bénir. Et quelle que soit notre vie, notre passé, notre histoire, vous allez voir avec moi, on va le voir ensemble, c'est que Dieu, parce qu'il nous aime, a déjà bien longtemps oublié, finalement, notre condition d'homme miséreux, misérable, indigent, malade, et il a déjà donné le remède et la guérison à travers la personne de Jésus. Écoutez, « Attache-toi donc à Dieu, et tu auras la paix, et tu jouiras du bonheur. Reçois de sa bouche l'instruction et mets dans ton cœur ses paroles. Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant. » Si tu éloignes l'iniquité de ta tente, jette l'or dans la poussière. l'or d'Ophir parmi les cailloux des torrents, et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent ta richesse. Alors tu feras du Tout-Puissant des délices, tu éleveras vers Dieu ta face, tu le prieras, il t'exaucera, et tu accompliras tes vœux. À tes résolutions répondra le succès, sur tes sentiers brillera la lumière, vienne l'humiliation, tu prieras pour ton relèvement, Dieu secourt celui dont le regard est abattu, tu délivreras, il délivrera même le coupable qui devra son salut à la pureté de tes mains. Alors approchez-vous pour vous attacher. Voilà la complémentarité, c'est que lorsque nous nous approchons de quelqu'un et que véritablement les choses sont réelles, elles sont sérieuses, eh bien il y a là à un moment ou un autre, si l'amour existe, si la foi et l'amour existent, il y a naturellement un attachement. C'est le principe de la vie que Dieu a instituée sur la terre. Et fondamentalement, c'est ce qui se passe dans la constitution d'une famille. À travers un jeune homme, une jeune fille, un homme et une femme, qui à un moment donné se rapprochent, je ne sais par quelle chimie, mais on la connaît naturellement, hein, c'est le sentiment, c'est être amoureux, naturellement, et ça c'est Dieu qui l'a donné. Et voilà qu'à un moment donné, lorsque les choses se poursuivent, eh bien il y a un attachement. Ça commence dans l'amour et ça se fonde et ça s'enracine dans l'amour. Et Dieu prend en quelque sorte, à travers cette parole, eh bien ce que nous connaissons, nous les hommes, puisque c'est lui qui a créé. Il a tout créé. Il a créé l'homme, il a créé le sentiment, il a créé eh bien l'amour. Et nous voyons qu'il n'y a pas d'autre chose qu'à la base de ce rapprochement, c'est que nous n'avons pas peur. Vous savez que l'amour bannit la crainte. Vous connaissez ça, hein, c'est écrit aussi dans la Bible. Alors on peut s'approcher parce qu'on sait qu'il existe, parce qu'on sait qu'il nous aime, parce qu'il nous a fait des promesses et le témoignage de son amour. Alors à ce moment-là, mais est-ce que nous pourrions aller chercher autre part? Chercher notre malheur? Chercher des déceptions? D'ailleurs, c'est le drame souvent des ruptures dans la vie des hommes et des femmes. C'est qu'il n'y a plus d'amour ou il n'y a plus de confiance. Et à ce moment-là, eh bien, l'amour est remplacé par la haine et s'instaure un climat de peur. Peur de ceci, peur de cela. Alors on comprend que le monde est bouleversé, enfin le monde de ces gens-là est bouleversé. Mais nous voyons qu'en ce qui concerne cette interpellation, approchez-vous de Dieu, attache-toi donc à l'Éternel et tu auras la paix. Je trouve que c'est une très belle proposition. C'est une invitation formidable dont les hommes d'aujourd'hui ont tant besoin, auraient besoin s'ils avaient un tant soit peu. Eh bien, ce sentiment que Dieu existe, que Dieu a préparé quelque chose de bon pour eux. Et vous savez, lorsqu'on est attaché à quelqu'un, quelqu'un de bon, et parmi les hommes, il y a des gens qui sont remplis de bonté, c'est vrai. Mais que dire de Dieu? Dieu est la bonté parfaite. Il est l'amour parfait. Il est la justice parfaite. Il est la pureté. Et tout ce que nous pouvons finalement eh bien, savoir de ce que nous dit la Bible, du caractère même de Dieu, hein, dans toutes ses dimensions. La traduction littérale est celle-ci. Attache-toi, accorde-toi. C'est comme s'il y avait là avant eh bien, une situation qui était conflictuelle et on s'accorde, on fait la paix. Vous savez, dans les nations, lorsqu'elles se font la guerre, oh, c'est pas pour ça qu'elles vont tomber en amour après. Hein. Hein, quand il y a eu ce genre de conflit, c'est autre chose. Mais bon, ça ce sont les nations et c'est le monde politique, hein, c'est le monde des peuples. Mais il y a quelque chose, c'est que nous nous accordons. Et d'abord, dans la première chose, c'est accorde-toi avec lui et fais la paix. Lui est prêt à faire la paix. Mais toi, est-ce que tu veux faire la paix? Est-ce que tu veux faire un traité de paix? Et normalement, lorsque on a des opposés, lorsqu'il y a des belligérants et qu'ils sont sincères tous les deux, eh bien la paix va se faire. Parce qu'il y a à ce moment-là, eh bien un rapport de confiance. Tu as donné ta parole, je donne la mienne, et ensuite eh bien, on peut s'attacher l'un à l'autre. Dans un mariage, c'est comme ça que ça se passe. Hein. Je le dis et je le répète, on n'a jamais forcé un jeune homme ou une jeune fille à dire oui. S'ils le disent, c'est de consentement mutuel. Et ils le disent, peut-être pas en connaissance de tout, parce que la vie sera devant eux. Mais toujours est-il, comme monsieur l'officier civil le rappelle, pour le meilleur et pour le pire. En souhaitant naturellement que ça soit toujours pour le meilleur. Mais toujours est-il que c'est quelque chose que cet attachement. Et cet attachement a pour conséquence, quand il s'inscrit dans la fidélité, dans l'effort commun, l'effort de chacun, des deux parties, avec cette assurance, alors à ce moment-là, tu auras la paix. Vous savez que c'est important de vivre en paix. Il y a des gens qui vivent en guerre en permanence. Et je ne parle pas des guerres sur les continents, ici ou là. Je parle à commencer par les foyers. Je pense aussi dans tout ce qu'il peut y avoir d'accord dans la vie sociale ou autre chose. Et tu auras la paix. Parce qu'avec la paix, on construit. Avec la guerre, on détruit. Ce sont des lieux communs, ce que je suis en train de vous rappeler. Donc, pour nous dire, si les choses sont écrites, c'est que les hommes sont en guerre avec Dieu. Mais ils ne le savent pas. C'est pas que Dieu est en guerre avec eux, mais c'est eux qui ont déclaré finalement eh bien, leur indépendance. Ils ont déclaré qu'ils n'avaient pas confiance en Dieu. Et ça, ce sont des ingrédients, ce sont des éléments, ce sont des substances même explosives. Alors, les hommes sont en guerre, ils sont ennemis, c'est ce que nous disent les Épîtres, lorsque vous étiez ennemis de Dieu, lorsque vous étiez des fils de la rébellion, lorsque vous étiez en querelle avec le ciel, ou les choses comme ça, ça revient très souvent. Je voudrais vous dire, pour éclairer un peu le sujet, c'est que l'homme est attaché à bien des choses qui ne sont pas pour autant des gages de bonheur et de paix. Ah oui. Et quand il est question de ce mot, de ce verbe « attacher », ça nous fait penser, d'une manière péjorative, à prisonnier et prison. Or, c'est le contraire qui se passe. C'est que s'attacher avec Dieu, c'est la libération, c'est l'affranchissement. C'est la liberté, c'est la jouissance de ce que nous devons être, de ce pourquoi Dieu nous a créés, pour que nous soyons des êtres libres, des êtres en paix, des êtres qui vont se développer et s'épanouir dans la joie. Ce qui n'est pas le cas de quelqu'un qui est lié, d'un prisonnier dans sa prison. Alors attache-toi à Dieu, et c'est bien précisé, à Dieu. Pas à des faux dieux, pas à des idoles, pas à des choses inimaginable ou imaginaire, mais ce n'est pas n'importe qui. C'est celui qui te parle, c'est celui qui a tout préparé, comme nous l'avons dit, et il s'agit de Dieu. Et par perspective, nous pouvons dire que après l'Ancien Testament, il y a le Nouveau Testament, et dans le Nouveau Testament, au cœur même du Nouveau Testament, donc de l'Évangile, celui que Dieu a envoyé, il s'appelle Jésus. Et vous savez quel nom, quel titre il porte ? Jésus, le prince de la paix. Voilà. Et c'est à lui. C'est vers lui. Lui, il a été attaché à une croix. Il a été prisonnier, retenu jusqu'à la mort pour que nous, eh bien, nous soyons libérés. Et c'est une question d'attachement. Il a fallu que lui soit attaché pour que nous soyons détachés de notre misère, de nos péchés, du mal, de la mort. Écoutez. L'apôtre Paul écrit ceci dans 1 Corinthiens chapitre 1 et verset 20, 1 Colossiens, pardon, même pas 1 Colossiens, c'est Colossiens parce qu'il n'y a pas la première ni la deuxième, excusez-moi. Dieu a voulu par lui, donc Jésus, réconcilier tout avec lui-même en faisant la paix par lui, vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres. Le lien est fait. La relation, l'approche a été déjà faite avant que nous pensions, que nous croyions, que nous puissions imaginer que Dieu existe. Voilà. Alors sans Dieu, on le sait, la Bible le déclare, il est impossible de fonder un monde de paix. Parce que tout est en rébellion contre le Créateur. Et si l'homme est en rébellion contre son Créateur, le sachant ou non, il est forcément, et ça nous en avons les preuves tous les jours, eh bien, en guerre avec son semblable. C'est normal. C'est tout à fait logique. Et à l'origine de ce drame épouvantable qu'est la guerre, qu'est le conflit, qu'est le meurtre, qu'est le crime organisé à grande échelle, c'est parce que finalement, la relation, le tronc et les branches ne sont plus sur la racine. Comprenez ce que ça veut dire ? et bien, l'homme est livré à lui-même. Alors attache-toi donc. Attache-toi donc pour t'unir dans une relation durable, par un sentiment d'affection profonde, de sincérité. Et ça, ça s'appelle une alliance, ça s'appelle une union. Et en conséquence, tu auras la paix et tu jouiras ainsi du bonheur. Ainsi, c'est le chemin. Ce n'est pas une voie sans issue. Ce n'est pas une voie d'aventure. Ce n'est pas de l'à peu près ou quelque chose d'approximatif. Tu auras le bonheur. Et je crois que s'il y a des hommes sur la terre qui peuvent véritablement parler de paix, parler de joie et de bonheur, ce sont les chrétiens, non pas de nom, mais profondément de cœur, par conviction, en ayant accepté Jésus comme leur sauveur personnel, ces gens-là, eh bien, peuvent dire que le bonheur existe. Oui. Ça ne veut pas dire que notre vie est facile. Ça ne veut pas dire que notre vie, nous sommes là à marcher sur un chemin qui serait, eh bien là, un tapissé de pétales de rose. Hein. C'est pas ça. Hein. Aux roses, il y a des épines. Hein. Mais je veux dire que la paix, le bonheur et la joie, c'est quelque chose d'intérieur, parce que finalement, celui avec qui je me suis attaché, eh bien, il est près de moi, il est même plus près de moi, il est en moi. Et c'est lui qui me communique cela, qui me communique ce que nous avons, eh bien, défini ensemble. Il y a deux sortes de paix, il y a celle que Dieu donne, et il y a la paix que les hommes donnent. Elle est de tout à fait différente. La paix que les hommes se procurent, elle est toujours à remettre en cause, parce qu'au bout d'un certain temps, il y a toujours la guerre qui revient. Ça, c'est comme ça. Ça fait partie de la nature de cette humanité. C'est ce qu'on appelle le mystère de l'iniquité. Mais la paix que Dieu donne, c'est autre chose. Et c'est Jésus qui nous en fait cette belle promesse. Il nous dit, je vous donne ma paix. Je vous la donne, mais je vais faire encore mieux. Je vais vous la laisser. C'est-à-dire qu'elle sera avec vous. Il me semble qu'il y a quelque chose qui nous l'indique et qui nous le rappelle à chaque fois que nous venons dans cette salle par rapport à ce qui est écrit sur le mur. Je vous laisse ma paix, parce que la paix est la source du bonheur. C'est formidable de vivre en paix. Moi, j'ai du mal à comprendre le monde, comment il fonctionne. Et je suis d'autant plus étonné que je me demande comment il tient en équilibre. Parce que ce sont des conflits, ce sont des rivalités, ce sont des rébellions de droite et de gauche. Je me dis, mais Seigneur, c'est encore toi qui as la main sur le monde. Vous savez, il arrivera un temps, ce qu'on appelle les temps apocalyptiques, où là, eh bien, Dieu lèvera sa main. Et on verra, et ça sera quelque chose d'effroyable et d'épouvantable. Mais je crois que c'est encore Dieu qui maintient les choses dans ce monde. Alors le vrai bonheur, celui qui est intérieur, celui dont nous avons parlé tout à l'heure, vient de notre attachement, non à l'idée de Dieu, mais à la personne vivante de Jésus-Christ. Parce que l'idée de Dieu, elle est très répandue dans le monde, hein. Vous avez des millions et des millions, voire des milliards de personnes qui déclinent une religion d'une façon ou d'une autre, hein, voilà, une confession religieuse, qui se disent croire dans le fait religieux d'une manière et le pratiquer à leur manière. Mais c'est pas ça ce qui finalement changera les choses. Ce n'est pas l'idée de Dieu qui nous sauve, c'est de venir et de nous attacher. On peut intégrer une idée, mais une personne, on la prend, on la sert et elle nous sert. C'est-à-dire que quand je parle de serrer, c'est pas servir, hein. Nous la servons aussi, mais elle nous tient, elle nous embrasse, on pourrait dire, certainement. Parce que nous avons tout ce qui est nécessaire pour pouvoir nous approcher de lui. Cette personne de Dieu. Vous savez que dans les jardins d'Éden, je fais cette remarque, les premiers étaient heureux, parce qu'il y avait quelque chose qui faisait leur bonheur profond, c'est qu'ils étaient en communication permanente et intime avec celui qui les avait créés. Le chapitre 3 est véritablement la rupture de cette communication dont nous avons encore, eh bien, l'héritage. Parce que l'Écriture sainte nous dit que à ce moment-là, le péché, le mal, le choix de l'homme pour ce qui est corrompu a tout gâché. Et en perdant Dieu, l'humanité a sombré naturellement dans le malheur. Alors les conditions, c'est reçois de sa bouche instruction et mets dans ton cœur ses paroles. La bouche, elle a plusieurs vertus, de nous substanter, de nous nourrir. Ça, c'est une chose. Mais elle a aussi une autre faculté, enfin, une autre propriété, nous pourrions dire, c'est qu'elle nous sert à parler. Et je voudrais vous dire, ça sera un anthropomorphisme, mais la bouche, Dieu a une bouche, et il a parlé. Et ses paroles ne sont pas parties en l'air comme cela, et ont disparu. Elles demeurent à travers les siècles. Alors reçois de sa bouche. Tu as des oreilles. Eh bien, tu as des jambes pour t'approcher de lui. Tu as des mains pour t'attacher, pour le serrer et qu'il te serre aussi dans ses bras. Alors, tu reçois de sa bouche l'instruction et tu mets dans ton cœur ses paroles. Vous savez, il y a quelque chose que Dieu a voulu, par lequel il a voulu sauver les hommes, c'est sa parole que l'on appelle l'Écriture sainte et que Paul dira d'une manière tout à fait particulière, la prédication. Et il dira que c'est par la folie de la prédication que Dieu veut sauver les hommes, pas par d'autres moyens. Et c'est comme ça que depuis 2000 ans, c'est comme cela que depuis toujours, finalement, Dieu a parlé par les prophètes de l'Ancienne Alliance, Moïse et les uns et les autres, mais aussi particulièrement à travers la personne de Jésus, en lançant au monde une parole qui s'est constituée en prédication, en exhortation, pour eh bien, revenir tout simplement à cette invitation qui est créée sur tous les continents, attache-toi à Dieu, rapproche-toi de Dieu, reçois, tu prends, tu acceptes. Jésus utilise aussi cette belle image dans Matthieu chapitre 11, quand il dit, oui, approche-toi, attache-toi, accorde-toi, Jésus dira lui, venez à moi. Venez à moi et je vous donnerai quelque chose que je n'ai pas cité, mais qui est une complémentarité, qui va avec le reste, eh bien je vous donnerai du repos. La paix, c'est le repos, dans l'amour de Dieu. Alors, je vous donnerai du repos, parce que vous avez besoin, vous êtes fatigué, vous êtes broyé par la vie. Vous êtes broyé par la solitude. Vous êtes broyé parce que vous êtes là à marcher sur un chemin qui ne mène nulle part, puisque vous êtes tout seul. Ce n'est pas que Dieu vous ait abandonné, mais c'est que vous, vous avez abandonné Dieu. Vous avez perdu la notion de Dieu. Alors, à ce moment-là, vous allez prendre, moi je vous donne ce conseil, dit Jésus, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. On revient au texte, car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez le repos pour vos âmes. Recevez mes instructions. Comment peut-on grandir? Comment peut-on nous attacher à une personne que l'on ne connaît pas? Eh bien, Dieu veut se faire connaître à nous. À travers la personne de Jésus, il nous dit qu'il est doux et humble de cœur. Et à travers toute la parole, dans l'Ancien, dans le Nouveau Testament, eh bien, nous n'avons que des instructions. Déclinées poétiquement, sous eh bien, la connaissance historique, à travers des lois, c'est-à-dire finalement eh bien, des préceptes, des principes, à travers l'inspiration prophétique, ce sont les instructions, et à travers la grande révélation qui surpasse toutes les autres, c'est-à-dire l'évangile de Jésus-Christ, qui est avant tout appelé bonne nouvelle. Alors, laissez-moi vous dire deux mots de la valeur et de la qualité de la parole de Dieu. Ouais, valeur et qualité de la parole de Dieu. Écoutez, simplement, je prends ce texte parce que je pense qu'il résume bien. C'est dans le psaume 19 et au verset 8 à 11, il est dit ceci, je restitue tout simplement, il nous est dit, la parole, la loi, hein, c'est ça, on peut le transmettre la même chose. La loi de l'Éternel, elle est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Après, nous avons la connaissance. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs et ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur en reçoit ainsi instruction. Pour qui les observe, la récompense est grande. Assurance de la paix, du repos, du bonheur. Tout cela, nous l'avons déjà dit il y a un instant. Mets dans ton cœur. On l'a lu, hein. Reçois de sa bouche ses instructions et tu mets dans ton cœur ses paroles. La destination de ces paroles de Dieu, elles ne sont pas faites pour notre tête. Alors naturellement, Dieu qui nous a créés des êtres intelligents, ne veut pas que nous abdiquions notre pensée, notre raisonnement, nos analyses, nos déductions. Mais une chose qui est certaine, c'est que tant que ça se passe ici, ça ne produira aucun fruit de foi. Par contre, le réceptacle de la parole de Dieu qui va, je ne sais par quelle alchimie, par quelle puissance, mais c'est la puissance du Saint-Esprit, lorsque c'est reçu dans le cœur, alors là, à ce moment-là, c'est tout un autre, c'est un autre monde qui se découvre. C'est tout autre chose. Autre conséquence, si tu le mets dans ton cœur, il va se passer quelque chose, alors tu seras rétabli. Puisque nous avions dit et évoqué la situation qu'il y avait guerre, que l'homme était en opposition finalement eh bien, à son Créateur. Alors tu seras rétabli. Qu'est-ce que c'est qu'un rétablissement? C'est d'avoir été comme le Fils prodigue, de revenir, de nous approcher du Père céleste, de nous attacher à ce Père céleste. Et il y a quelque chose qui est très beau dans la parabole que Jésus nous laisse, du Fils prodigue qui revient à la maison. C'est la doctrine, on pourrait dire, c'est une petite doctrine, mais c'est une doctrine quand même, du rétablissement, la réhabilitation. Vous savez, quand il y a un coupable, enfin, quelqu'un qui est jugé, après des années de prison, et on s'aperçoit qu'il est innocent. La justice prévoit, la justice des hommes prévoit un non-lieu et une réhabilitation de cette personne. Ça n'empêchera pas que cette personne, l'homme qui a vécu cela, sa vie a été cassée. Ça, c'est vrai. Mais une chose qui est certaine, c'est qu'aux yeux des autres, les hommes ont reconnu qu'il y a une erreur judiciaire. Et que là, on va le réhabiliter, on va le rétablir. Eh bien, Dieu nous rétablit. Nous sommes de ces créatures et nous sommes sortis de ces mains géniales qu'on ne peut pas imaginer. Et il nous remet dans notre position. Et ça s'appelle, ce rétablissement, ça s'appelle la nouvelle naissance. Il nous fait vivre, il nous fait renaître parce que nous étions morts. Si tu reviens au Tout-Puissant, si tu éloignes l'iniquité de ta tente, l'homme, on l'a dit dans son position à Dieu, eh bien c'est rejeter lui-même en dehors du plan. Parce que Dieu a un plan. À l'origine, à la première heure, il y avait un plan. Je crois que pour tout être qui arrive dans ce monde, vous savez les petits bébés qui viennent de naître là, aujourd'hui ou dans la minute que je parle, eh bien moi je crois qu'il y a un plan de vie pour eux. Le comprendront-ils? L'entendront-ils? Est-ce que peut-être ceux qui vont les accompagner pour en faire des hommes leur parleront de ce plan? Mais en tous les cas, s'ils ne leur en parlent pas, le Seigneur les visitera un moment ou un autre parce qu'il a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Ça, c'est l'œuvre de Dieu qui nous dépasse. Oh là là, c'est quelque chose qui va beaucoup plus loin. Alors, cet homme, il lui faut un retour vers son Créateur. Et on l'a dit, il y a un terme qui est au-delà d'une réhabilitation. Et qui ouvre la réhabilitation, c'est la réconciliation. Si vous lisez dans le Nouveau Testament ce que Paul écrit sur la réconciliation, ce n'est pas seulement une conciliation, ça va beaucoup plus loin que cela, parce qu'il y a la notion de pardon. Dieu pardonne. Dieu pardonne à l'homme qui veut être pardonné. Une réconciliation. Tout à nouveau, on repart et on oublie le passé. Et Dieu a oublié. Et Dieu oublie les péchés, les fautes de l'homme qui se repent. Son moyen, c'est sa parole. On l'a dit. Ça peut se produire qu'à la faveur d'un retour. Approchez-vous. Et il s'approchera de vous. Ça s'appelle la repentance. Et puis, à la condition, comme nous l'avons lu, si tu éloignes l'iniquité de ta tente, c'est-à-dire que ta vie doit changer. Ta mentalité va changer. Tu vas demander à Dieu que tu n'aies plus les mêmes sentiments. Que tu n'aies plus la même façon de voir les choses. Mais ça se fait, hein. C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance, naturellement. Toujours le même apôtre, Paul, écrit ceci pour mettre en avant le message qu'il adresse. Il dit ceci, « Nous faisons les fonctions d'ambassadeur. » Et un ambassadeur, vous savez ce que c'est, vous pouvez deviner ce que ça peut être. Hein. Un médiateur entre deux parties. Ou entre deux pays, deux peuples. Pour Christ, nous sommes les ambassadeurs de Christ. Nous vous en supplions, écrit-il, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Oui. La réconciliation. Et ça, c'est quelque chose dont le monde a énormément de besoin. Il y aurait bien des couples qui pourraient se retrouver. Il y aurait bien des gens de la même famille qui pourrait reprendre une marche normale. Il pourrait bien y avoir toutes sortes de situations conflictuelles parmi les hommes de ce monde, si véritablement il y avait tout simplement un désir de réconciliation. Mais on est deux. Et le problème, c'est que le chrétien veut, mais peut-être que celui qui est en face ne veut pas. Et ça pourrit quelque part les relations. Et ça pourrit finalement l'état du monde. Parce que on entend souvent, et on l'entend quelquefois dans des reportages, il y a des gens qui disent « mais moi je ne pardonnerai jamais, c'est impardonnable ». Et ces gens qui disent « je ne pardonnerai jamais », ils ne savent pas qu'ils sont eux-mêmes déjà pardonnés. Parce que quand on a été pardonné, on est obligé de pardonner. Oui. Dieu vous a pardonné en Jésus-Christ. Ils ne le savent pas, ils sont dans l'ignorance. Et c'est ce qui fait qu'ils se renforcent dans leur haine. Et naturellement, il y en a un qui est derrière pour dire « t'as raison de ne pas pardonner ». Tu as raison, c'est juste ce que tu penses. Mais on passe à côté de la paix. On fait l'impasse sur le repos. Et le mot bonheur n'existe pas. Les gens qui sont dans la haine, les gens qui sont dans l'inimitié, qui sont dans toutes sortes de choses au fond de leur cœur, ils sont heureux? Est-ce qu'il y a un haineux heureux? Ça reste à vérifier. Parce qu'ils s'enfoncent de plus en plus dans leur... Pour justifier leur position et leur raison, ils s'enfoncent de plus en plus dans le mal. Alors, conseil pour un bonheur sans ombre, le verset 24 nous dit « Jette ton or dans la poussière, l'or d'Ophir, parmi les cailloux des torrents, et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. » Une des racines de la corruption humaine, et qui fait le conflit, qui fait le drame de notre humanité, c'est la cupidité. Ouais. La convoitise et la cupidité. En d'autres termes, si j'ai bien compris ce texte, c'est l'amour des richesses, l'amour de l'argent, qui n'est pas en soi une garantie de bonheur, parce qu'il y a bien des gens qui ont les moyens, qui ont de gros moyens, qui sont riches, dont Mammon, dont Mammon est l'idole, bien en place, et qui sont, comme on le dit, je ne sais pas d'où vient cette expression, mais je vérifierai un jour, malheureux comme la pierre. Ouais. Les gens que... Parce que ça, c'est l'extérieur de la vie. Ce sont des moyens d'existence, ce ne sont pas les buts d'existence. Et l'homme est malheureux parce qu'il a interverti le moyen, et il a confondu le moyen avec le but. Et ça, c'est dramatique. Vous savez que l'argent est à l'origine de bien des drames, hein, bien des guerres, bien des mensonges, bien des déchéances et des vices. Pour avoir de l'argent, qu'est-ce que les hommes ne feraient pas? Il y a des gens qui sont obsédés du matin au soir pour dire « mais aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire pour avoir de l'argent ?» Non pas les pauvres gens, ceux qui veulent avoir de l'argent pour simplement acheter un peu de pain et puis manger. C'est pas cela. Vous savez que nous vivons dans un drôle de monde depuis 2008, là. C'est terrible ce qui se passe. Il y a des vautours, il y a des aigles. Dans tout ce monde, dans les hautes sphères du monde, de l'économie et de la finance, et qui s'enrichissent d'une façon spéculative, et qui est en train de spéculer sur des valeurs qui sont l'essentiel, tous les produits agricoles et toutes sortes de choses, et pour retirer finalement le plus en plus de bénéfices, alors qu'avec ces produits, on pourrait faire du pain, mais on va faire du pétrole. On va faire de l'énergie, vous comprenez? Et ça, moi, je trouve que c'est quelque chose d'abominable. Il va y avoir des millions et des millions, des milliards de gens qui vont mourir de faim et on va dire « Non, cette production-là, elle va servir pour l'énergie. » Alors que les hommes ont besoin d'une énergie, c'est manger, hein. Mais on leur retire le pain de la bouche. Ça, c'est scandaleux. Et puis, de spéculer sur ceci, cela, sur des valeurs qui n'existent pas, hein, d'ailleurs. Enfin, sur des objets de spéculation qui n'existent pas. C'est du vent. Alors, c'est terrible. Que l'argent soit ton serviteur, dit un proverbe, mais qu'il ne soit jamais ton maître, parce que la vraie richesse, c'est Dieu. David le dit dans le psaume 16, « Je dis à l'Éternel, et lui, il savait où il avait placé sa fortune, hein, je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, et écoutez bien, moi, c'est une expression que j'aime beaucoup, tu es mon souverain bien, mon souverain bien, Seigneur, tu es le plus précieux. » Il était riche, hein, David, hein, il était roi, il avait des palais, il avait tout ce qu'il voulait, mais il n'en avait pas perdu la tête. Parce que Dieu était l'essentiel de sa vie. Parce que ça, c'est sûr que c'est une valeur. Ne vous amassez pas des trésors, nous dit Jésus, sur la terre, où la teigne et la rouille. Alors après tout ce cheminement, le secret de la bénédiction divine nous est présenté dans ce petit paragraphe. Alors tu feras du Tout-Puissant tes délices. Tu élèveras vers Dieu ta face, ta voix, ton cri peut-être. Tu le prieras. Il t'exaucera. Tu accompliras tes vœux, à tes résolutions, répondras le succès, sur tes sentiers brillera la lumière. Voilà un homme qui ne marche pas dans l'obscurité. Ouais. Mais tout ça repose sur la confiance. Et la confiance, nous l'appelons la foi. Écoutez, alors tu feras du Tout-Puissant des délices. Il y a quelque chose qui fait votre délice, peut-être, dans d'aimer. Hein. Il y a des choses que nous aimons plus que d'autres. Hein. On dit c'est délicieux. Voilà, ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. Alors, on sait que c'est autre chose pour nous. Et s'il t'arrive d'avoir des épreuves et des difficultés, toi qui crois, toi qui veux mettre ta confiance, toi qui t'approches de Dieu, en sachant que si tu le fais, lui va s'approcher de toi, toi qui t'attaches, toi qui t'es réconcilié avec Dieu. Alors, il faut que tu saches que tu vas prier, oui, tu prieras et lui va t'exaucer. Et ainsi, toutes tes résolutions que tu as prises au fond de ton cœur, eh bien, répondra au succès. Parce que c'est lui qui va ouvrir tes sentiers et tu ne marcheras pas dans la peur, dans les ténèbres, dans la pénombre, mais tu marcheras dans la lumière. Et ça, ça change tout. Hein. Ça change tout. C'est l'assurance. La véritable joie est une joie intérieure, toute la Bible nous le dit et nous le confirme, qui ne dépend pas des conditions extérieures bonnes ou mauvaises. Oui. C'est quelque chose de formidable d'avoir un gouvernail à l'intérieur de notre vie. Il n'est pas à l'extérieur. C'est pas en fonction des cours de la bourse que je suis heureux ou que je vais pleurer ou que je vais m'attrister. Non, c'est en fonction de ce que Dieu a mis au fond de mon cœur, et que je le sais. Ton plaisir sera de connaître Dieu. Il est question de délices, c'est ça. Hein. Ce que tu aimes le plus au monde, eh bien, c'est le Seigneur. Tu le prieras. Tout vrai croyant prie. Est-ce que c'est normal? Un enfant, quand il arrive au monde, il crie. Un homme, quand il naît de nouveau, il prie. Ça se fait naturellement, hein? Oh, je dirais que peut-être même, il loue le Seigneur. Merci Seigneur, comment se fait-il que tu aies pu me sauver, moi? Alors, voilà, tout simplement, parce que la puissance de la prière, eh bien, nous fait toucher les merveilles de l'exaucement de Dieu. Et c'est ça ce qui renforce notre foi. Les premiers pas, les ultimes premiers pas que nous avons faits dans la foi, c'est que nous avons compris que Dieu était vivant, que nous l'avons prié, et il nous a exaucés. Et à cause de cet exaucement, nous avons fait un deuxième, un troisième, et nous avons fait toutes sortes d'expériences comme ça. Et aujourd'hui, après des années, ou peut-être des mois, seulement des mois, nous sommes convaincus que Dieu est irremplaçable pour nous. Irremplaçable. Il est à la base de notre vie aujourd'hui. Merci Seigneur. Le croyant prie et le reçoit. Le pécheur prie, mais ne reçoit pas. Parce qu'il y a quand même quelque chose qui est lié finalement à notre état moral. Il faut bien le reconnaître. Il y a des pécheurs qui prient. Hein. Vous savez comment il prie le pécheur? Conscient de son péché. Seigneur, hein, que le ciel ne me tombe pas sur la tête. C'est exactement le contraire de l'évangile. Seigneur ne va pas faire tomber le ciel sur la tête. Au contraire, il va envoyer Jésus. Il a envoyé Jésus pour que le pécheur, eh bien là, puisse croire, pour que il passe à travers le jugement et qu'il reçoive la grâce. C'est la différence. La prière évitable. Invoque-moi et je te répondrai. À tes résolutions répondra le succès. La réussite, le succès, c'est une grâce de Dieu. Il y a des gens qui n'arrivent à rien dans l'existence. Et il y a des gens, parce qu'ils se confient en Dieu, eh bien, les choses ne sont peut-être pas faciles, mais néanmoins, il y a une bénédiction particulière. Moi, j'ai vu... Vraiment, on peut dire, pendant bien des années, des chrétiens, chefs d'entreprise ou autres, hein, artisans, et puis dans toutes sortes, et même peut-être hein, tout simplement de simples foyers, hein, de simples ménages, dans les affaires de la réussite, hein, ou la gestion de l'argent, ou dans ce qu'ils entreprenaient, parce qu'ils associaient le Seigneur tous les jours, et de voir vraiment une bénédiction. Moi, j'ai connu des situations vraiment... Hein, où le chiffre d'affaires, je peux en parler, où le chiffre d'affaires était formidable parce que c'était tout un groupe de chrétiens qui travaillaient. Et ça rangeait les jaloux les autres, hein, je peux vous dire, hein, ils ne comprenaient pas. Hein. Ils savaient, hein, ils savaient quand même quelque chose qu'il y avait, mais formidable. À tel point qu'à un moment donné, ils ont tellement été en colère, hein, c'est qu'ils ont mis tout le monde dehors. C'est complètement stupide, parce qu'ils en avaient le bénéfice aussi. Ils étaient dans la même entreprise, mais la jalousie, vous comprenez? Vous voyez? La jalousie, c'est terrible. Affreux. À tes résolutions répondra le succès. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Heureux l'homme, tout ce qu'il fait lui réussit. Puis je termine. Dieu demeure fidèle. Il n'abandonne jamais ceux qui lui font confiance. Vienne l'humiliation, la prière, mais vienne l'humiliation, viennent les nuages noirs sur nos vies, sur ta vie. Alors tu prieras pour ton relèvement. Dieu secourt celui dont le regard est abattu. Ça arrive aux enfants de Dieu d'être abattus. Hein. Quelquefois, on a du mal à se lever le matin. Hein. On a des soucis, on a des difficultés, et ça se voit tout de suite. Hein. Un cœur qui est dans la joie, eh bien, ça se voit sur le visage. Mais quelquefois, la dépression, l'anxiété, le souci, la préoccupation, ça se voit aussi. Mais ça peut nous arriver. Alors, n'oublie pas à ce moment-là de prier. N'oublie pas de dire ta peine, n'oublie pas de dire ta souffrance, d'apporter ton fardeau, de lui reposer tout cela devant lui. Et comme il t'a déjà relevé une fois, hein, il t'a déjà réconcilié, alors il va le refaire. Parce que ce que Dieu a fait, il est capable de le refaire naturellement. Parce que tu dois avoir l'assurance dans ton cœur que Dieu secourt celui dont le regard est abattu. Ce n'est pas un regard abattu révolté, c'est un regard abattu, consterné peut-être de ne pas pouvoir... Eh bien, trouver la solution par nous-mêmes, mais à ce moment-là, quand on tourne les regards vers lui, vers le haut, notre visage est rayonnant de joie. C'est un regard abattu, certes, mais rempli de foi et d'espérance. Et le Seigneur change et envoie les nuages ailleurs. Alors ça, c'est aussi important, la souffrance et l'épreuve, et le lot de tous les hommes, des croyants, à la différence de l'incrédule qui cherche la délivrance en bas, le croyant, lui, la cherche en haut. Tu prieras, Dieu secours. Et il n'est pas de cause portée vers Dieu, pour le redire, qui ne reste sans repose. Ta cause est devant lui, alors attends-le, nous dit le livre de Job également. La conclusion, c'est la suivante. Il délivrera même le coupable qui devra son salut à la pureté de tes mains. Alors, il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de culpabilité pour celui qui s'est approché de Dieu, celui qui s'est attaché à Dieu, mais le coupable peut venir. Il peut venir en tout temps, la porte est toujours ouverte. Dieu propose son plan de salut à des coupables, pas à des justes. Autrement, il aurait fait venir des anges à notre place, hein, parce qu'aucun n'est digne de sa grâce. Alors il nous appelle, une dernière fois, je le dis, je l'aurais dit, « Attache-toi donc, reçois et mets dans ton cœur » ses instructions, reviens au Tout-Puissant, tu éloignes l'iniquité de ta tente, tu jettes l'or, loin de toi, tu te sépares de ceci et cela. Et c'est clair, parce que le coupable ne peut être réhabilité en raison de la pureté de ses mains. Et vous avez lu avec moi, il est question, il devra son salut à la pureté de tes mains, à toi, Dieu, à travers la personne de Jésus. Et vous savez ce qu'on a fait à ses mains ? On les a percées, on les a clouées, on les a attachées à une croix, où Jésus ne pouvait plus bouger, pour que nous puissions eh bien, bouger du mouvement de la vie, mais de la vraie vie, pas de l'ersasme de la vie, pas d'une caricature de la vie, mais de la vraie vie. Alors, nous avons besoin de toute la grâce de Dieu. Ça, c'est quelque chose d'important. Et je terminerai par Ésaïe 53, quand il est dit ceci, « Il s'est livré lui-même à la mort, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, et qu'il a intercédé pour les coupables. Alors que Dieu nous bénisse. Et moi, ce soir, je voudrais simplement dire, vous qui écoutez, et puis tous ceux qui l'écouteront d'une autre manière, approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Que Dieu nous bénisse. On va prier quelques instants, si vous voulez bien. Seigneur, nous voulons te rendre grâce. Nous te remercions parce que ta parole, c'est une parole qui n'a rien de compliqué, Seigneur. Et tu t'es adressé à tous les hommes, à tous les niveaux, Seigneur, quelle que soit leur condition, quelle que soit leur vie, quel que soit leur degré, Seigneur, en effet, de connaissance ou non, peu importe. En effet, Seigneur, lorsque tu fais un monde, lorsque tu refais le monde, tu le refais nouveau. Et nous te bénissons. Et une vie, c'est pareil. Oui, Seigneur. Croyons, Père, que nous venons tous, les uns et les autres, avec l'atavisme du mal en nous. Mais Seigneur, tu n'as jamais cessé d'appeler et pour nous dire de nous approcher de toi. en nous donnant l'assurance que si nous le faisons, eh bien toi tu vas faire aussi de ton côté. Et tu ne veux pas seulement que nous soyons tes suivants de loin, mais tu veux qu'il y ait une relation entre la créature et le Créateur qui soit une relation d'intimité. C'est pourquoi tu nous as fait entendre ce soir de nous attacher à toi. Et être attaché avec quelqu'un, c'est d'être vraiment lié, c'est d'être côte à côte, c'est d'être uni, c'est d'être réuni, c'est d'être Seigneur, en effet. Et bien là, dans cette profonde relation, communion, Seigneur, parce que c'est le mot communion, alors qu'il en soit ainsi, Seigneur. Nous savons que, en effet, l'arbre, eh bien, Seigneur, a été déraciné. Et nous avons besoin de tout à nouveau d'être greffés sur la racine, parce que c'est la racine qui porte l'arbre. Et de la racine vient la nourriture, vient la vie. Alors nous, les hommes, créatures de Dieu, nous avons été, en effet, sectionnés. Nous avons été séparés. Mais par Christ, eh bien, nous pouvons reprendre notre place en te faisant confiance, en sachant, Seigneur, que tu as payé le prix pour des coupables, et c'est à cause de tes mains, toi, Jésus, qui fait que si nous regardons à tes mains, si nous regardons à ta croix, à Golgotha, et que nous croyons que tu es mort pour nous, eh bien, nous sommes sauvés, et nous te bénissons, nous sommes pardonnés, et nous avons la vie éternelle en Jésus. Merci, Seigneur. Amen.